Bonjour à tous, c'est Claire du podcast Cyclotopo, le podcast consacré au voyage à vélo. Cette semaine, Juliette et son vélo cyclosmique nous accompagnent pour un tour de France des écolieux. Plus qu'un voyage à vélo, Juliette y a adossé un autre projet. Son objectif, parcourir la France à la découverte d'initiatives accordant une grande place au développement personnel. Partie de Paris en avril 2021, Juliette a d'abord sillonné le nord-ouest de la France avant d'emprunter la Vélodyssée jusqu'à Bordeaux. Elle nous racontera, notamment et non sans humour, sa traversée des Landes. Après quelques semaines de pause et de formation, Juliette a repris la route en direction de Montpellier. À travers sa quête pour mieux vivre ensemble, cette jeune voyageuse nous emmène pour un voyage ponctué de rencontres, d'expériences et d'apprentissage sur soi-même. Pour partager ses initiatives inspirantes, ses personnes passionnées et faire germer la graine du voyage à vélo chez d'autres, Juliette documente son voyage via son compte Instagram et son blog Le Renard à Vélo. Lorsque nous avons enregistré cet épisode, Juliette était toujours en voyage, du côté de Montpellier. Elle revient donc avec nous sur les moments qui l'ont marqué pendant cette première année de voyage et nous parlera de la suite de son projet. Je vous souhaite une excellente écoute! Bonjour Juliette.
Bonjour Claire.
Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Cyclotopo. On va parler de ton tour de France des écolieux. Tu vas nous raconter tout ça très très bientôt. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es? Où es-tu actuellement? D'où viens-tu? Et depuis quand voyages-tu à vélo?
Eh bien, actuellement, je suis vers Montpellier. J'ai commencé mon voyage en avril 2021, au départ de Paris. Et donc, je voyage à vélo, en fait, depuis cette date-là. Avant, je faisais pas de vélo.
D'accord. Et du coup, comment est-ce que tu as découvert le voyage à vélo et qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie de te lancer dans ce premier voyage?
Alors, tout au départ, c'est parti d'une grosse blague. En fait, j'étais en formation de permaculture et j'avais vraiment envie de visiter d'autres écolieux. J'avais déjà été au Vielodon, en Ardèche. Et en fait, j'allais à cette formation en vélo avec un super vieux vélo des années 70, absolument pas en bon état. Et je faisais une heure de vélo en fait pour aller à la formation. J'arrivais en sueur et tout ça. Et en fait, quelqu'un m'a fait une blague en me disant « Mais pour faire ta découverte des écolieux, t'as qu'à le faire en vélo. Apparemment, tu kiffes le vélo. » Et je me suis dit « Ben ouais, pourquoi pas en fait ?» Après, j'ai découvert que je pouvais avoir des meilleurs vélos. Et donc, je me suis dit, trop facile, je vais faire ça. Voilà, ma petite histoire.
Et est-ce qu'il y a, je ne sais pas, peut-être des voyageurs qui t'ont donné envie de partir à la découverte des écolieux? Je sais que j'en ai déjà parlé avec pas mal de voyageurs, comme le permaculture ou d'autres initiatives. C'est assez courant de faire le tour de France des écolieux à vélo. Est-ce qu'il y a d'autres voyageurs qui t'ont donné envie?
Et ben en fait, à cette époque, je connaissais personne d'autre. Et au fur et à mesure de la préparation de mon voyage, j'ai découvert qu'il y avait le permaculture qui s'était lancé. Donc j'ai pas mal suivi leurs aventures. Et ensuite, je suis arrivée dans tout le monde des voyageurs à vélo, petit à petit, en découvrant énormément de monde. Et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup... donner le sourire de me lever le matin en me disant s'il y en a qui le font, ben tu peux le faire. Et en fait, ben même si t'étais la première à le faire, c'est pas grave, mais c'était super inspirant de voir qu'il y avait des gens qui vivaient en fait à vélo.
Ouais. Le monde des voyageurs à vélo est grand et de plus en plus grand, donc je pense que tu as trouvé ton bonheur parmi toutes tes expériences. Donc on va parler de ton tout premier voyage à vélo du coup et celui que tu es en train de faire actuellement. Donc en avril 2021, tu t'es lancé dans un tour de France des écolieux en utilisant ton vélo comme moyen de déplacement. Comment est né ce projet? Alors tu nous as un peu dit, mais surtout pourquoi en France? Est-ce que tu aurais pu partir un petit peu plus loin avec ton vélo par exemple?
Eh bien justement, comme tu l'as très bien dit, j'aurais pu partir ailleurs, mais je ne l'ai pas fait. Tout simplement parce que je me suis dit que mais finalement j'avais déjà voyagé dans d'autres pays, pas en vélo, mais en tout cas je connaissais assez peu la France Et j'avais vraiment envie de découvrir nos régions et découvrir, rencontrer en fait plein de monde sur la route et voir un petit peu comment les gens y sont par rapport au fait de découvrir quelqu'un qui voyage à vélo.
Ouais.
Il y avait de ça. Et parce que aussi, il faut bien commencer quelque part. Donc, commençons par chez soi. Hein, c'est un petit peu comme pour le développement personnel. Commençons devant sa porte et puis ensuite, on verra bien. Donc, je me suis dit, en France, c'est l'idéal, en fait. Surtout qu'il y a un terreau super intéressant d'écolieux qui sont hyper variés. Ils sont pas forcément grands par rapport à ceux qu'il y a en Europe, mais il y en a vraiment plein avec chacun leur particularité. Donc, voilà, je me suis dit, je peux rêver, en fait, en restant en France. J'ai pas besoin d'aller super loin.
Et je ne sais pas si tu t'étais inspirée de la carte qu'avait fait le permacultour, mais c'est vrai que quand on regarde cette carte, c'est incroyable le nombre d'écolieux qui y a en France.
Oui, il y a une carte aussi qui est la carte des oasis.
D'accord.
Et en fait, en recoupant plusieurs cartes, j'ai fait un petit peu à ma sauce la mienne, que j'enrichis au fur et à mesure. Et en fait, je voudrais pouvoir tous les mettre, mais ça rentrerait même pas. Hein. Ce serait complètement illisible. Il y a énormément d'alternatives qui sont juste géniales, en fait. Des fois, je me dis, je pourrais passer ma vie à voyager juste en France. Bon, j'aimerais bien quand même partir un peu plus loin, mais dans le principe, on pourrait. Faudrait même plusieurs vies, en fait.
C'est ça. Et donc, est-ce que dans les grandes lignes, tu peux nous présenter ton projet? Ton projet qui s'appelle Le Renard à vélo. Est-ce que tu t'es fixé une durée de voyage? Est-ce que tu t'es fixé un itinéraire prévisionnel? Comment as-tu choisi les écolieux? Un peu tout ça.
J'ai organisé mon voyage du coup pendant une année avant de partir, notamment parce que j'avais décidé de monter mon vélo moi-même et que nous étions dans cette magnifique période de Covid. Donc c'était un peu plus long en fait hein, de faire les commandes pour les pièces de vélo, mais ça a fonctionné. Le temps attendu vélo est arrivé, un mois avant la date de départ il était monté et prêt à être chevauché, donc ça c'était top. C'était un peu maintenant ou jamais, quoi. Donc c'était bien. Mais ça s'est fait et c'était une expérience déjà en soi de préparation absolument géniale. Donc j'ai fait ma petite carte, j'ai contacté les lieux en avance. Je leur avais envoyé même des questionnaires pour pouvoir être sûre d'avoir en fait un panel de lieux assez variés dans lesquels je pourrais aller travailler. Et puis, au fur et à mesure du voyage, je me suis rendu compte que c'était pas la peine de prévoir si longtemps à l'avance. Donc maintenant, je me fie un petit peu plus à mon intuition. Voilà.
Et tu m'as dit que tu avais contacté beaucoup d'écolieux pour avoir un panel de thématiques et de travaux différents. Qu'est-ce que tu recherches et qu'est-ce que tu recherchais aussi principalement dans ces écolieux? Quelles sont les activités que tu souhaites faire principalement dans ces écolieux?
Eh bien, en fait, à la base, je suis partie déjà tout au départ dans l'idée de documenter en fait ce voyage. Et je voulais le documenter par rapport à tous les aspects de la vie en collectif. La question principale, en fait, que j'ai toujours gardée en tête en visitant les lieux, c'est comment vivre ensemble, comment mieux vivre ensemble, quels peuvent être les outils. Du coup, ça m'intéressait de voir un petit peu comment, dans des écolieux, ils pouvaient développer, par exemple, l'aspect culturel, l'aspect relationnel, donc aussi tous les outils pour régler les conflits, pour prendre des décisions. Donc des choses très pratico-pratiques et aussi des choses un peu moins terre-à-terre de développement personnel qui peuvent être super variées, en fait. C'est ça qui m'intéressait, et dans ce contexte, d'aller aussi dans des lieux qui sont des tout petits lieux, où c'est un noyau familial qui s'occupe du lieu, comme des lieux plus grands où il va y avoir 25 personnes qui habitent. C'est comme ça que s'est fait le choix de ces lieux-là, et ensuite, ça a été aussi au bon vouloir des personnes qui ont bien voulu m'accepter dans leur magnifique endroit.
C'est très intéressant ce que tu dis, parce que naïvement, je pensais que ton choix des écolieux se portait plus vers une activité en soi, comme j'avais pu déjà avoir Eka comme Claire et Sarah Lou dans un des premiers épisodes du podcast qui me disait qu'elle favorisait les écolieux avec principalement de la culture maraîchère. Et toi, tu me dis du coup que ton projet porte plus sur mieux vivre ensemble et le développement personnel. Donc, c'est une approche très différente, je pense, de pas mal de projets. Tu me parlais tout à l'heure du matériel et tu m'as dit que tu avais monté ton vélo toi-même. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton vélo? Comment as-tu choisi les pièces qui composent ton vélo? Est-ce que tu en es contente?
Alors, ce magnifique vélo Surly qui s'appelle Cyclosmic, parce qu'il fallait bien lui trouver un nom. Hein. Donc voilà, pour aller voyager dans mes rêves, je trouvais ça pas mal. Donc j'ai acheté en fait juste le cadre Surly et ensuite toutes les autres pièces qu'on a choisies soigneusement avec un ami qui... Enfin, à la base, c'était pas un ami, mais avec quelqu'un en tout cas qui travaille dans un atelier de vélo, qui est devenu mon ami, parce qu'en fait, je crois que on se voyait presque tous les deux jours pour régler ce que j'allais prendre comme dérailleur, comme ceci et comme cela. Et en fait, moi, je venais de nulle part. En fait, j'arrivais comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, mais un éléphant précautionneux. J'avais fait ma liste, je m'étais renseignée, j'avais fait des listes de noms de pièces. Et en gros, j'allais le voir pour lui dire, voilà, moi, je crois que je veux un vélo comme ci, comme ça, avec telle pièce et telle pièce. Je suis pas sûre, je viens vous demander conseil. Et en fait, au fur et à mesure, on a peaufiné. Et on a pu... moi, j'ai pu le pré-monter chez moi. Donc, en fait, j'ai monté toutes les pièces que je pouvais monter. Ouais. Et ensuite, lui a vérifié que tout était bien mis en place. Et il a tout resserré avec le bon nombre de barres, avec tous les outils qu'il avait à disposition.
Tu me disais du coup que tu n'avais pas d'expérience du vélo avant. Comment tu t'es dit « je veux monter mon vélo moi-même » ? Qu'est-ce qui t'a poussé à monter ton vélo toi-même alors que tu aurais pu en acheter un déjà tout prêt ?
C'est une bonne question qu'il faudrait que je me repose aussi dès que je fais un projet en fait. Mais en fait, j'adore sortir de ma zone de confort parce que ça me fait beaucoup apprendre. Et donc là, j'y ai sauté à pieds joints quoi. Je me suis dit « allez, c'est parti ». Je sais rien du tout du monde du vélo et je veux faire un tour de France, voire plus en vélo. Donc, il faut que je connaisse ma monture. Il faut que je puisse savoir exactement quelle pièce est sur mon vélo, où est-ce que je la recommande, comment je la mets, en fait. Donc, ça allait de soi qu'il fallait que je sache faire ça.
Donc, tu as... le cadre qui est arrivé, tous les composants, tu as monté Cyclosmic, il roule, je suppose. Oui, vu tous les kilomètres que tu as fait, il roule bien même. Bon, c'est bien beau, tu as un vélo, mais il faut mettre tes bagages dessus. Donc, comment équiper ton vélo? Tu as 2 sacoches, 4 sacoches?
Alors moi, j'ai pris autant de sacoches que je pouvais. J'ai pris autant de sacoches que je pouvais parce que je voyais des voyageurs avec des énormes sacoches de partout. Donc je me suis dit, bon, je vais faire pareil. A priori, c'est ça qu'il faut, hein, pas moins. Donc j'ai 4 sacoches. En fait, j'ai 4 sacoches arrière. J'en ai 2 qui font 60 litres que j'ai mis à l'arrière.
Enfin, 30 litres chacune, je suppose.
Oui, c'est ça, oui.
Ok.
Et j'ai 2 sacoches... qui font en tout 30 litres, du coup, qui sont aussi normalement des sacoches arrière, mais que j'ai mis à l'avant.
D'accord.
J'ai une pochette pour le guidon. J'ai une toute petite pochette pour mon téléphone sur le cadre. Et à l'arrière, en hiver, quand j'ai vraiment beaucoup de matos, j'accroche des choses au-dessus de mes 2 sacoches. Et aussi dans une sorte de sacoche en queue de renard, ou en queue de ce que vous voulez. Je sais pas, moi je dis queue de renard, mais... voilà, mais en fait je vais m'alléger beaucoup plus parce que enfin, je vois bien que je me suis délestée d'énormément de choses déjà depuis le départ, ce qui est normal. Quand on sait pas avec de quoi on va avoir besoin, en fait on prend tout ce qu'on aura potentiellement besoin, et dans le potentiel il y en a plein qu'on n'utilise pas. Mais je me suis fait une joie de tailler dans le vif, d'enlever plein de trucs, et j'en enlève encore. Et c'est toujours autant une joie, en fait, de repartir avec encore moins de trucs.
Encore moins de choses, d'être un peu plus légère et d'avoir un peu moins de bazar aussi quand tu défais tes sacoches, je suppose. Et alors, moi, il y a une question qui me taraude. Qu'est-ce qu'on met dans des sacoches quand on visite des écolieux? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques? Une paire de bottes ou des choses comme ça?
Eh ben, la paire de bottes, j'y ai pensé, mais ça rentrait pas. Enfin... Je me suis dit que ça faisait pas au niveau style.
Ouais.
C'était pas... Non. Donc du coup, j'ai laissé mes bottes. Pourtant, elles sont chouettes, hein. Mais non, je les ai pas prises. Du coup, j'ai une tenue de maraîchage.
D'accord.
Une d'été et une d'hiver. Donc je les interchange. Je prends pas tout ensemble parce que sinon c'est beaucoup trop lourd. Mais en gros, c'est une sorte de pantalon en toile super épaisse. Truc bien bien lourd, quoi, qu'on prendrait pas en voyage en temps normal avec plein de poches dedans.
Ouais.
Mais c'est quand même super pratique parce que c'est le pantalon qu'on peut dégueulasser, c'est fait pour. Et sinon, bah en fait, comme je documente, j'ai aussi mon ordinateur, en fait, du matériel informatique, ma caméra. Un petit peu de quoi manger sur le pouce sur la route, mais je me rends compte que je mange pas tant que ça quand je roule, donc ça va. Et puis ben, des habits pour des habits tout ce qui peut se mettre sous forme de couche en fait, c'est beaucoup des habits techniques. Je pense que les autres voyageurs à vélo, j'imagine, doivent faire aussi cette technique là de mettre toutes les habits techniques en fait de vélo un peu tout le temps, y compris les moments où vous sortez en mode hyper bien habillé, mais en fait c'est juste la dernière couche qui fait bien habillé. Histoire de pas prendre trop de trucs avec. Donc voilà, c'est à peu près ça. Je pense que ça doit pas beaucoup différer d'autres personnes, mis à part les affaires de maraîchage, en fait.
Mais je me retrouve dans ce que tu dis.
Mmh.
Et est-ce que tu emportes avec toi une tente, un réchaud et tout ce qui va avec, ou tu vas d'un écolieu à un autre?
Alors, j'avais pris une tente que je vais probablement troquer contre un hamac, parce qu'en fait, j'ai été beaucoup, beaucoup de fois accueillie. La tente, c'était un peu un côté sécurisant. J'avais pris un réchaud aussi que je garde. En fait, c'est un réchaud à bois pliable, donc c'est ultra pratique.
Okay.
Ça prend pas de place, c'est super léger. Voilà. Donc celui-là, je vais le garder.
Okay. Et du coup, comme tu as un réchaud à bois, tu n'emmènes pas de combustible avec toi, donc tu trouves,
oui, c'est ça, ouais.
Tu trouves du bois assez facilement. Alors, une dernière question pour les préparatifs, après on passera au voyage. En termes de budget, comment est-ce que tu finances ton voyage? Est-ce que, je ne sais pas, tu t'étais fixé un budget à la base? Et est-ce que tu, je ne sais pas, tu as sollicité des bourses ou d'autres sponsors et partenariats avant de partir?
Alors, moi, je m'étais fixé un budget assez large basé sur des personnes qui voyageaient en vélo. Plutôt dans le cadre d'un voyage classique, en fait. Donc, en allant éventuellement dans des hôtels ou en prenant des locations. Qui est de 15 000 euros pour l'année. Sachant qu'en fait, maintenant, quand je vais finir mon voyage, je serai à un an et demi. Mmh. Et j'aurai encore du budget. Un tout petit peu, quand même. Mais disons que dans ce budget, moi, j'ai inclus vraiment tout l'achat, en fait, de tout le matériel, y compris de toutes les affaires. Technique, donc tous les fringues techniques qui coûtent quand même assez cher.
Ouais.
Du vélo, des sacoches, de la nourriture que je mettais dedans. Je me suis fait un super Excel de la mort qui tue avec tout ce que je pouvais lister. Voilà, s'il y avait eu des paquets de mouchoirs, je les aurais mis dedans pour être bien sûr. Au final, c'est super varié. Enfin, j'ai lu plein de choses, mais on peut imaginer un budget, mais en fonction vraiment de la manière dont on vit, de nos besoins qui sont super personnels et la manière dont on va voyager, c'est vraiment que quand on est sur la route qu'on peut se rendre compte de combien on utilise, tout simplement.
Oui.
Donc moi, c'est pour ça que je m'étais donné un budget assez large, pour être sûr que je rentre dedans, en fait. Et en termes de financement, c'était une partie d'apport personnel et une partie où j'ai fait un emprunt auprès de mes proches, en fait.
D'accord, ok.
Voilà.
Dans ta réponse, tu viens de me dire que tu avais prévu que ton voyage dure un an et demi. Pourquoi cette durée?
Alors au départ, il devait durer une année. Et je m'étais donné cette durée-là tout simplement parce que je savais que j'avais un budget restreint. Et finalement, ça dure un an et demi. Je voudrais bien que ça dure toute la vie. Mais toute la vie, ça voudrait dire voyager avec absolument rien du tout. Même pas une petite sécurité bah, si jamais il m'arrive un pépin sur la route. Voilà.
Ouais, je comprends. Ou alors emprunter beaucoup d'argent à tes proches.
Voilà, ou leur dire que c'est un emprunt à perpétuité, et puis comme ça, c'est réglé. Franchement, moi, je prône cette possibilité, mais j'ai encore réussi à convaincre personne. Mais le jour où ça marche, je vous dis. Parce que franchement, là, on tient un truc, quoi. Puis on part tous en voyage.
Tu nous tiens au courant si tu trouves le bon filon. Écoute, on reste à ton écoute. Hein. Bon, maintenant qu'on a parlé des préparatifs, on va parler de ton voyage. Donc, comme je le disais tout à l'heure, tu es partie en avril 2021 de Paris pour cette belle et longue aventure à vélo d'un an et demi à la découverte des écolieux en France. Est-ce que tu peux nous raconter ton départ? Est-ce que tu appréhendais ou est-ce que tu avais hâte de partir?
Moi, j'avais super hâte de partir. J'attendais que ça. J'avais fait, refait et re-refait mes bagages 15 fois. Et pour la petite anecdote assez drôle, le jour du départ, je monte sur mon vélo, je mets mes bagages, je fais 50 mètres. Et là, je me dis, bah, c'est bizarre quand même le guidon, comment il tremble là. Est-ce que c'est parce qu'il est chargé ou alors j'ai mal disposé mes bagages? Peut-être c'est trop chargé d'un côté du vélo. Mais en fait, non, c'est juste que je m'étais absolument pas entraînée à rouler avec les bagages parce que du coup, mon vélo n'était pas prêt à l'époque. Et voilà, tout ça pour dire, faut se lancer et puis faut y aller, quoi. Il n'y a que ça de vrai. Hein.
Tout à fait. Et donc, tu as roulé vers le nord-ouest de Paris en direction de ton premier écolieu qui est le Moulin de Pont-Ru. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette découverte de ce premier écolieu?
Alors, le Moulin de Pont-Ru, il a mis la barre haute comme premier lieu d'accueil, clairement. En fait, c'est un lieu qui a trois types d'activités. Et l'activité principale, en fait, c'est l'accueil de réfugiés. Là, c'était des réfugiés tibétaines.
D'accord.
Dans l'optique de les insérer, en fait, dans la société, qu'elles aient un travail, qu'elles puissent apprendre le français, qu'elles puissent trouver un logement. Donc, eux, ils les accompagnent vraiment à ça pendant 2 ans. Ils font aussi de l'accueil de femmes qui ont subi des violences. Donc, ils leur proposent des séjours, en fait, qui leur permettent vraiment de se recentrer sur elles et de prendre soin d'elles. Et ils accueillent aussi des jeunes issus de quartiers défavorisés pour qu'ils puissent, en fait, avoir accès à plein de types d'activités qu'ils ne pourraient pas faire en temps normal. Voilà. Ils font aussi des stages de développement personnel, mais ça, c'est... On va dire que c'est pas... Ça fait partie du lot, mais voilà, c'est surtout les trois premières activités qui sont assez impressionnantes. C'est un lieu vraiment génial, quoi. Ils sont vraiment dans l'accueil, et on sent que leur métier, ça leur plaît vraiment.
Et alors, toi, quelle a été ta contribution dans cet écolieu?
Et du coup, dans ce lieu, moi, je me suis occupée du jardin avec Guillaume, un passionné de permaculture qui donne des formations aussi. Qui m'a fait découvrir toutes les plantes sauvages qu'on pouvait manger. Donc on a mangé toutes les plantes sauvages qu'on pouvait manger. Et puis on a aussi fait du pain ensemble. Enfin, il y a énormément de choses. Je trouve que tout le monde est vachement aligné avec ses valeurs dans celui-là. Et c'est en ça aussi que ça a mis la barre assez haute.
Et combien de temps tu es resté dans cet écolieu?
En fait, j'essaie de rester en moyenne entre 2 à 3 semaines. En fonction de la demande, parce que ça dépend aussi du lieu qui m'accueille. Pour la fin du voyage, je jongle entre 10 jours et 2 semaines, tout simplement parce que là, je sens que je suis encore dans le sud de la France et dans 3 mois, il faut que je sois remontée. Me connaissant, je sais très bien que quand je vais remonter vers le nord, ça signe un peu la fin du voyage, donc je traîne à remonter. Mais j'essaie de rester quand même assez longtemps pour vraiment m'imprégner de l'ambiance, rencontrer les gens. S'il y a des masques, les masques tombent un peu et qu'on se rencontre vraiment entre humains.
Oui, je comprends. Et puis comme toi, d'après ce que tu m'as dit, tu cherches vraiment à comprendre comment les personnes vivent ensemble et autres, je suppose que ça demande encore de rester plus longtemps peut-être que de simplement acquérir des connaissances autour d'une activité plus concrète peut-être, enfin concrète. Je pense que tu m'as compris, quoi.
Oui, oui, oui.
Plus agricole, on va dire.
Oui, oui. Bah, c'est ça, c'est un mélange de tout ça, en fait. Comme j'ai des bases d'architecture, enfin, j'ai une formation d'architecture, après, je vois bien que l'intérêt que j'y porte, c'est... Il y a une forme d'analyse, en fait, du lien architectural et du lien relationnel entre les personnes. Si l'architecture a un impact sur les relations du collectif, et si le collectif, lui, travaille l'architecture du lieu pour répondre en fait à ses besoins. Et ensuite, tous les autres outils, c'est des outils relationnels, humains. Et finalement, le reste, entre guillemets, c'est qu'une excuse pour vivre ensemble et pour donner du sens à la vie de chacun au jour le jour. Ce qui n'en reste pas moins super intéressant, mais du coup, ça fait vraiment beaucoup de matière, en fait. Ça fait beaucoup de matière super riche et plein de rencontres. Et je vois bien qu'au bout de 2 semaines, j'arrive des fois à rencontrer vraiment les gens. On s'échange des choses assez profondes. Et en fait, au bout de 3 semaines, je me suis dit, si je reste 3 semaines dans un lieu, vu comment dans les premiers lieux je me sentais bien, je vais jamais faire un tour de France, en fait. Hein. Je vais faire un tour d'une région, puis voilà, ça va durer des années parce que c'est des rencontres tellement, tellement chouettes que on n'a plus envie de partir.
Je comprends. Je te comprends tout à fait, c'est une très belle approche. Et justement, est-ce que tu te dis à la fin de ton voyage que tu penses vivre dans un de ces écolieux ou en créer un toi-même ou je ne sais pas, comment tu vois la suite ?
Eh bien, pour la suite, dans mon rêve le plus ultime, enfin, un de mes rêves, parce qu'il y en a quand même des millions, hein. Mais dans un de mes rêves, j'aimerais en fait... faire de l'accompagnement de collectifs, donc de collectifs qui veulent créer un lieu ou qui veulent aménager un peu son lieu, ou en tout cas, voilà, pouvoir les aider. Et d'autre part, j'adorerais vivre dans un lieu en collectif. Je suis pas sûre de vouloir le créer. Je pourrais créer une partie, mais si en fait dans mon activité professionnelle j'accompagne des lieux, c'est difficile dans son activité professionnelle d'accompagner des lieux et dans sa vie privée de faire un lieu, parce que ça fait vraiment beaucoup beaucoup en termes de charge de travail. Mais je vois bien qu'il y a une dimension collective qui est là et qui me quittera pas, clairement. Voilà.
Du coup, c'est un projet, c'est un voyage qui va façonner tout ton futur après, donc c'est très chouette. Ouais. Alors, on va revenir sur ton voyage. Là, on n'en est qu'au début. Donc, on était au Moulin de Pont-Ru. Après, il me semble que tu es partie vers la Normandie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Eh bien, en fait, j'étais censée aller à la ferme du Plessis, le centre AMA. Et puis, comme on était encore en période de Covid, il y avait des restrictions en termes d'accueil. Donc, ça n'a pas été possible. Donc, déjà, première bifurcation où je me dis, bon, ben, je vais aller vers la Normandie, alors. Parce que j'ai un ami là-bas, donc j'ai été en Normandie. Donc là, ça a été déjà un petit peu les premières vacances, alors que c'était pas prévu, mais voilà. Et ensuite, je suis descendue pour aller vers la Mayenne, dans un lieu qui s'appelle la forêt nourricière. Après la forêt nourricière, je suis redescendue encore pour aller vers Nantes, au Clos des Milles. Où j'ai pu participer à un chantier d'un dôme en terre paille. Ça, c'était vraiment très, très chouette. Une super ambiance. Ensuite, j'ai été à Tour d'Osée, un lieu absolument génial. Enfin, très, très joli. Une belle bâtisse rénovée avec un petit jardin et des gens super accueillants dans le Maine-et-Loire.
Sur ton compte Instagram, Renard Aveo, tu partages beaucoup de publications sur la Tour d'Osée. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce lieu ? Qu'est-ce qui t'a marqué ?
Eh ben, un peu tout. Un peu tout. C'est rigolo parce que c'est un tout petit lieu tenu par un couple qui est venu là il y a une quinzaine d'années, qui a racheté une bâtisse et qui l'a rénovée. Et moi, en fait, quand j'ai posé mon vélo, j'ai mis pied à terre et là, je me suis sentie mais prise dans les bras par une ambiance super douce. comme si le lieu entier me faisait un câlin chaleureux. Après une heure de méditation, je me suis dit waouh, je me sens vraiment bien ici. Donc déjà, ça a commencé par ça. Donc évidemment, première impression super positive. Et puis, mon amour de l'architecture m'a bien fait voir que c'était aussi un lieu super bien rénové, avec des matériaux écologiques. Les gens sont hyper sympas. C'est un lieu vraiment très reposant. Et il y a plein de petites balades autour à faire. C'est super vallonné, donc j'ai adoré passer mon temps là-bas. Et très très étrangement, en fait, c'est le lieu dans lequel j'ai passé le moins de temps, mais que j'ai le plus kiffé. Enfin, peut-être c'est pas fou. Le plus kiffé, mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup adoré. C'était intense, mais fort en émotion, quoi. Vraiment. C'était super chouette. J'ai pu habiter dans une petite roulotte aussi.
Et quelles activités de la Tour d'Osée? Ils ont une activité de maraîchage aussi?
En fait, ils font de l'accueil de développement personnel.
D'accord.
Et ils mettent vraiment l'accent sur le fait que cette bâtisse, ils l'ont rénovée. Eux, ils habitent dans une partie de la bâtisse, mais en fait, ils accueillent les gens. En tout cas, le lieu fait quasiment rien payer en fait, pour l'accueil des formations. C'est vraiment juste les formateurs et tout l'ensemble. Ouais, leur point d'honneur, c'est vraiment de pouvoir accueillir tout le monde.
C'est très intéressant, ça sort un peu de l'image des écolieux qu'on se fait, que j'ai d'ailleurs avec où la plupart ont des activités de maraîchage et autres. C'est très intéressant comme témoignage. Et si les auditeurs sont intéressés, ils peuvent retrouver beaucoup de photos de la Tour d'Osée sur ton Instagram, le Renard à Vélo, s'ils veulent voir à quoi ressemblent les lieux comme tu nous les décris. Alors, on va revenir quelques minutes sur le voyage à vélo, peut-être. Un peu plus vélo que voyage. Comment te guides-tu pendant ton voyage pour aller d'un écolieu à un autre? Tu utilises ton téléphone ou je sais pas, les panneaux sur la route?
Ouais, les panneaux sur la route, c'est toujours un peu intéressant hein, quand même, d'avoir un œil ouvert sur les panneaux. Quoique, des fois, il y a des petits malins qui trouvent ça rigolo de tourner les panneaux. Alors, ouais, c'est hyper rigolo, mais ça dépend quel jour, quoi. Quand il pleut, c'est moins drôle. En fait, j'utilise ma carte et mon GPS. Cela dit, c'est con à dire. Moi, quand je suis partie, je savais très bien que finalement, on a l'impression qu'une carte, c'est facile à lire et qu'un GPS, c'est facile à lire. Mais en réalité, il y a plein de petites subtilités. Ce qui m'a valu tout début du voyage en fait de faire 2 jours de vélo plutôt que d'en faire un, voilà, pour arriver dans le premier lieu, ça commençait bien, tout simplement parce que la carte me proposait en fait les routes à vélo et les petits pointillés en général, ça veut dire que c'est des chemins, ça peut aussi dire que tu vas traverser un champ. Et que du coup, si t'es pas prêt à traverser un champ parce que t'as un vélo super chargé et qu'il y a plein de cailloux et d'herbes folles dans ce champ, faut pas le faire. Mais moi, comme je suis un peu têtue, je fais ça en fait, hein. Voilà. Donc maintenant, je le fais plus, parce que j'ai compris. Et puis pour le GPS, c'est un peu pareil. En fait, il y a plein de types de routes qui sont proposées. Moi, j'utilise Komoot parce que je trouvais qu'il marchait très très bien. En sélectionnant aussi le type de route parce que quand il pleut par exemple les routes même les routes pour les vélos quand elles sont vraiment trop sableuses et que j'ai vu que précédemment elles étaient trop sableuses qu'elles ont bien pris l'eau, que c'est bien détrempé et que je m'enfonce dedans, du coup je les évite et je prends la route, tant pis. Donc c'est des petits trucs comme ça qu'on apprend au fur et à mesure.
Oui, qui te font ton expérience de voyageuse à vélo.
Ouais, petite expérience. J'ai pas eu trop de pépins, donc franchement, ça va.
Si on reprend ton voyage dans le bon sens, après la Tour d'Osée, donc, qui est entre Cholet et Bressuire, tu es parti direction l'île d'Aix, Rochefort, Bordeaux, le littoral atlantique, on va dire. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as suivi la Vélodyssée? Tu as fait des stops sur ton itinéraire? Comment tu as organisé ton voyage?
J'ai fait un stop, j'ai fait un stop à l'île d'Aix parce que je connaissais des gens là-bas, donc c'était sympa. Et en fait, ensuite, j'ai suivi la Vélodyssée et à peu près de cet endroit-là jusqu'à Soulac, voire même un peu après. En fait, après être passé par le bac à Royan. C'est vraiment un itinéraire hyper sympa. Alors tout le monde m'a hyper vanté aussi la suite dans les Landes, mais alors soit j'étais pas sur la bonne route, soit c'est vraiment pas qu'on aime les mêmes itinéraires. Mais moi, les routes tout droites avec des pins pendant des kilomètres et des kilomètres, ça m'a pas fait rêver. Donc ça m'a vite saoulée, donc j'ai enchaîné les kilomètres et il y a des journées où j'ai fait 100 km la journée parce que j'en pouvais ouais. plus. C'était très méditatif. Mais donc voilà, j'ai suivi la route à vélo. C'était un des rares moments dans le voyage où j'ai vraiment suivi une route à vélo pendant un long moment. Je suis passée un petit peu aussi sur le canal du Midi qui va vers Toulouse.
D'accord.
Mais sinon, comme je vais dans des écolieux et qu'en général, bah malheureusement ou heureusement, je sais pas, ils sont pas à côté des véloroutes. Donc ça m'a fait emprunter plein d'autres itinéraires un peu plus bizarres les uns que les autres. Mais les plus bizarres sont les plus sympas.
Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Et alors, tu me disais qu'après, tu avais fait une pause de 4 mois, c'est ça?
Bah en fait, je suis arrivée à une formation dans l'écolieu de Sainte-Camelle, au sud de Toulouse.
D'accord.
C'est, la formation, c'est éducation au design d'éco-village, EDE, pour un mois. Donc, c'est 35 personnes en fait, qui apprennent ensemble, à vivre ensemble et à utiliser les outils utilisés dans des écolieux. Et suite à ça, j'ai eu l'opportunité de louer un gîte avec des personnes de ce groupe-là pour expérimenter la vie en collective et expérimenter du coup tous ces outils-là et partager plein d'autres choses. Et j'étais censée repartir sur mon vélo et je me suis dit non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça, Juliette. Écoute, c'est une expérience extraordinaire qui t'est donnée de vivre là en fait. C'est comme la naissance d'un collectif avec des gens qui a priori n'ont jamais vécu en collectif, mais avec qui tu vis en collectif depuis un mois. Et en fait, du coup, on a habité là encore 3 mois. Donc finalement, j'ai habité à Sainte-Camelle pendant 4 mois et c'était absolument une aventure extraordinaire. Voilà, c'est là pour le coup, ça sort de la zone de confort et pourtant, c'était un voyage statique, mais c'était un voyage intérieur génial.
Et alors, je pense que tu peux pas me faire un résumé de 4 mois en 2 ou 3 minutes, mais est-ce que tu pourrais juste me dire, pour que ce soit peut-être un peu plus concret, qu'est-ce que tu as aimé dans cette expérience du collectif et au contraire, quelles sont les difficultés qui sont difficiles à surmonter, surtout toi après si tu veux en faire ton projet professionnel.
Et déjà, ce que j'ai trouvé absolument magnifique, c'est qu'en fait, on se retrouve à 35 personnes qui connaissent pas du tout les outils de vie en collectif. Et pourtant, au bout d'une semaine et au bout de tous les exercices qu'on a pratiqués ensemble, il y a une vraie connexion à l'autre personne avec qui je parle dans son être vraiment profond. On s'en fout, en fait, de quel âge la personne elle a, de ce qu'elle a, quel est son travail. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, on en a parlé, mais je veux dire, c'est pas sur ça qu'on va mettre le point de... On va pas se concentrer sur ça, en fait. Et en fait, on se rend compte qu'on a tous nos besoins, on a tous notre manière de communiquer, mais en fait, il y a plein de choses qui sont ultra similaires et que les premières choses ultra importantes, déjà, c'est l'écoute. C'est d'être capable d'écouter l'autre et du coup, d'être écouté. Et que ça fait déjà 80% du travail et qu'ensuite, il peut y avoir des conflits parce que moi, j'ai peut-être besoin de plus de repos et que toi, t'as besoin de d'exprimer ta créativité et du coup, de jouer du saxophone. Sauf que moi, en fait, j'étais en train de faire ma sieste. Mais du coup, tout ça, c'est des conflits, en fait, entre les personnes, mais qui partent de conflits intérieurs, déjà. Et il suffit d'en parler, on en parlait calmement, avec bienveillance, en se disant qu'en fait, on fait tous de notre mieux. Et donc, c'est une expérience qui... Moi, m'a touché vraiment parce que ça a développé beaucoup, beaucoup de bienveillance, d'amour et de compassion envers les autres. Et je me suis rendu compte que tout ça, on l'a, on peut le cultiver par ces outils-là et vraiment comprendre comment l'intégrer dans sa vie de tous les jours Et en fait, en continuant cet exercice pendant les 3 mois d'après, ben en fait, on a trouvé des outils géniaux, quoi. Le premier mois, on s'est organisé en collectif, donc des choses très pratico-pratiques. Pour le ménage, pour faire les courses, aussi des échelles de disponibilité. Pour pouvoir noter le matin, en fait, si aujourd'hui on est disponible ou pas, parce que c'est des choses, des fois, qu'on ne va pas forcément tout le temps formuler à l'autre, mais qu'on puisse avoir une idée. Du style, si j'ai super mal dormi, que les gens s'imaginent pas que je suis en train de faire la tête, c'est juste que j'ai hyper mal dormi et du coup je suis pas dispo. Donc c'est ok, ça n'a rien à voir avec eux. Et du coup, de parler de ce genre de choses dont on parle pas en fait en temps normal, c'est super libérateur et ça permet vraiment déjà de bien être soi-même envers soi-même, de se sentir à sa juste place et d'être bien avec les autres, quoi. Et en fait, ben pour résumer, je sais pas si c'est peut-être un peu plus clair comme ça, mais tout ça, ça a été permis par des outils, par exemple des cercles de ressenti, des cercles de parole, par des expériences qui nous font vraiment nous reconnecter avec nos émotions comme la biodanza, d'autres outils qui nous ont permis de mettre des mots aussi sur les émotions, comme le forum émotionnel. Et en fait, il y a des millions d'outils comme ça, un peu partout. C'est juste génial de réussir à trouver ce qui marche bien pour soi et de les expérimenter dans un collectif et de les utiliser régulièrement comme on utilise une fourchette en fait et un couteau. Voilà, ça n'a rien de mystique ou de bizarre ou de... C'est juste des outils de communication et de bien vivre ensemble qu'on peut tous apprendre et qu'on peut tous mettre en pratique.
Eh ben dis donc, quelle expérience !
J'espère que c'est plus clair, je ne sais pas.
Oh mais merci pour ton beau témoignage. C'est très intéressant quand le voyage à vélo va au-delà du voyage à vélo. Je pense avoir compris que pour ton voyage, c'est le cas. C'est très chouette d'avoir ton témoignage. Bon, après cette expérience à Sainte-Camée, tu es quand même reparti. Il faut bien repartir à un moment
malheureusement,
donné.
Malheureusement.
Tu t'es dirigée vers le sud-ouest de la France, vers la ferme du Salvé.
Oui.
Alors, est-ce que dans la ferme du Salvé, c'est comme son nom l'indique, plutôt un écolieu, on va dire, tourné vers l'agriculture ou pareil, il y a une grosse partie de développement personnel?
Eh bien, la ferme du Salvé, en fait, elle est tenue par Jean-Louis. Et Jean-Louis, c'est un petit monsieur, un petit papy plein d'énergie qui habite, du coup, à l'endroit le plus haut de là où il pouvait habiter dans la région, quoi. Et moi, j'arrive avec mon vélo et là, je me dis, putain, avec mon nombre de bagages, comment je fais pour grimper là-haut? Mais finalement, j'y arrive. Et en fait, lui, il est sur un plateau de type méditerranéen et il est herboriste, donc... Il récupère les plantes sauvages pour en faire des tisanes et plein d'autres remèdes depuis plus de 25 ans.
D'accord.
C'est un petit peu des deux pour répondre à ta question. C'est à la fois une ferme et à la fois un espace aussi un peu de développement personnel, mais d'un autre type. En fait, Jean-Louis, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, surtout en Inde, et qui a lui-même un cheminement personnel par rapport à ce développement personnel assez intéressant. Et c'est quelqu'un d'hyper positif, parce qu'en fait, lui, il a toujours rêvé d'avoir la ferme du Salvé, il a prié pour avoir la ferme du Salvé, et un jour, eh ben, il a eu la ferme du Salvé, quoi.
C'est génial.
Pour faire un résumé textuellement de ce qu'il m'a raconté, quoi. Et en fait, c'est hyper riche à chaque fois, dans chaque lieu, de voir que... y compris dans celui-là, de voir que en allant rencontrer la personne de manière un peu plus approfondie, ben en fait elle a forcément un cheminement qui l'a menée ici, dans ce lieu plus particulièrement, et que souvent ça part d'un cheminement de développement personnel, quelque chose où elle va se demander de quoi est-ce que j'ai besoin pour être heureux. Et donc du coup, c'est forcément, on parle forcément de développement personnel.
Donc après la ferme d'Isalvé, tu es parti vers l'espace de la source, et là on se trouve presque déjà là où tu es actuellement, du coup, près de Montpellier.
Oui, c'est ça. Oui, oui.
Alors tu nous as parlé des, de tous les bons moments, mais est-ce qu'il y a une galère qui t'a particulièrement marqué ou une difficulté auquel tu ne t'attendais pas pendant ce voyage?
C'est pas vraiment une galère, en fait. Du coup, comme je vous disais, j'étais dans les Landes, et bon, du coup, j'ai pas trop apprécié les Landes, enfin, ce côté très peint et ligne droite. Et à un moment donné, surtout, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais super fatiguée. Ouais. À ce moment-là, je commençais à me rendre compte dans le voyage que ce que j'avais légèrement oublié, c'était des pauses, tout simplement. Parce que, en fait, faire du woofing, plus documenter, ensuite remonter sur son vélo, surtout souvent le week-end, arriver dans un lieu, poser mes affaires, recommencer à travailler, recommencer à faire les interviews, reprendre mon vélo et repartir, ça commençait un peu à tirer, quoi. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que les pauses se sont intercalées tranquillement, tous les deux ou trois lieux. Tous les trois lieux, c'était pas mal. Et à ce moment-là, j'avais pas trop fait de pause. J'arrivais au milieu de mon voyage et j'avais pas fait une pause conséquente où je faisais vraiment rien en fait pendant une semaine. Et tout simplement en fait j'étais au milieu de tous ces pins là et je me suis dit putain j'en ai marre de cette route, j'en ai marre de ce chemin, j'ai juste envie d'arriver à Bordeaux et me poser quoi, mais en fait là je voudrais y être maintenant. Bon c'était pas possible forcément. Mais je me suis juste rendu compte, je me suis mise à l'évidence, je me suis dit bon, c'est pas souvent que j'ai ce type de raisonnement, mais si j'ai ce type de raisonnement, c'est que je suis vraiment fatiguée. Donc, tu sais quoi, Juliette, ben tu vas juste aller à la route la plus proche, qui, soit dit en passant dans les Landes, est quand même très très loin, parce qu'il n'y a pas beaucoup de routes, quoi. Une fois que j'y suis arrivée, je me suis dit, ben écoute, tu pries toutes tes forces, tu tends ton pouce bien fort et bien fièrement, et t'attends. Et tu sais très bien faire ça. Et en fait, il y a quelqu'un qui s'est arrêté direct avec sa camionnette et qui m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai dit « Ah oui, ça va, c'est juste que j'en peux plus. Je sens que je vais avoir un... J'ai plus de jambes, j'ai plus d'énergie. Si jamais vous pouviez m'avancer de 15 km, ça me permettrait d'arriver à Bordeaux un peu plus tôt. » Et donc, c'est ce qui s'est magiquement fait. Et là, j'ai cru que j'allais décoller tellement c'était rapide pour moi, la voiture, à ce moment-là. Ça faisait... plusieurs mois que j'étais pas montée dans un engin pareil. Et voilà. Et en fait, 15 km, en un claquement de doigts, c'était fait. Et c'est tout. C'était en fait juste, j'avais un conflit intérieur parce que je me disais non, je veux pas monter dans la voiture, je veux faire le voyage tout en vélo, tout en vélo du début à la fin. Et là, je me suis dit, ben, pour 15 km, c'est bon, quoi. C'est pas la fin du monde, en fait. Faut prendre soin de soi aussi et sinon tu pourras jamais finir. Donc voilà. Donc c'est pas vraiment un pépin. Mais je pense que rien n'est un pépin à partir du. Enfin, rien n'est. Tout part de soi, en fait. Dès qu'on a une problématique, c'est la manière dont on regarde la chose qui arrive dans le voyage. Parce que, en fait, y a rien qui est. Enfin, rien n'est vraiment grave. Si ça arrive, ça arrive. Donc de toute façon, on peut pas refaire les événements à l'envers. Le passé, c'est le passé, et le futur, c'est le futur. Donc en fait, là, il y a que le présent. Et le fait est qu'il faut réussir au maximum à se dire, bon, ben voilà, avec les éléments que j'ai maintenant, qu'est-ce que je fais ? Mais de manière calme et posée, et en fait, en général, ça va.
En tout cas, tu en fais une très belle anecdote.
Bah, je me souviendrai de ce monsieur, en tout cas... qui m'a pris dans sa camionnette, qui m'a parlé de tout le super beau travail qu'il fait et dont je ne sais rien de plus, mais c'était chouette. C'est aussi les moments-là qui sont trop cool, de rencontrer des gens comme ça, qu'on connaît ni d'Ève ni d'Anan, partager un tout petit moment de rien du tout, hyper intense. Et voilà, c'est le moment présent, quoi, à fond.
Oui, je comprends, et puis ça... En même temps, tu voyages en solo, donc c'est toi qui imposes ton rythme, mais je comprends que ça peut prendre un peu de temps à se dire, bah non, je vais pas tout faire à vélo, j'ai aussi le droit de vouloir aller un peu plus vite ou de prendre un autre moyen de transport.
Bon, après, j'ai pas fait beaucoup de concessions, mais j'ai fait celle-là, voilà. Ça m'a permis d'avoir une anecdote.
C'est déjà pas mal. Et du coup... Ouais, je voulais te parler de la lassitude du voyage à vélo. Je pense que c'est peut-être un peu ce que tu as ressenti à ce moment-là.
Non, je crois que j'étais juste fatiguée. Là, en ce moment, je suis dans un état où je me demande si un jour je serai lassée vraiment du voyage à vélo. Franchement, je suis pas certaine que ça marche, cette histoire. parce qu'en fait, j'en veux toujours plus, quoi. Je me dis, mais c'est génial, c'est un moyen de voyager où on prend son temps, où on va à son rythme. Et en fait, si on a envie de faire 150 bornes, on fait 150 bornes. Et si on a envie d'être relax et de faire ça pas à pas, et ben on fait ça pas à pas et on prend confiance. Et voilà. Et si on veut faire du plat, on fait du plat. Si on veut faire des énormes montées, on fait des énormes montées. Mais il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles. Donc, avec des rencontres juste mieux les unes que les autres. Donc, je sais pas quoi penser. Je me dis, mais en fait, c'est pas possible que je m'en laisse d'un truc pareil, quoi. C'est meilleur que les glaces, quoi, je veux dire.
Et c'est ça qui est beau, c'est parce que tu nous me disais au début que tu avais lu plein d'expériences de voyageurs à vélo, mais tu te rends compte que toi, en faisant ton propre voyage, tu as toi-même ta propre expérience de voyageur à vélo, alors qu'il y en a des dizaines de milliers.
Mais oui, oui. Et puis je pense que j'en faisais aussi tout un, enfin, je m'imaginais qu'il y avait tout un paquet de péripéties. Pas ouf aussi, des moments vraiment chiants. Et en fait, je me rends compte que ben finalement, les moments chiants, on se les fait tout seul, quoi. Forcément, si je trouve ça hyper pénible une montée et que je râle dans ma tête, ça va être super pénible. Par contre, si j'en rigole parce que je me dis « Oh là là, vous, tous les fruits et tous les trucs que j'ai dans mon sac, quand j'arrive en haut, je vous mange comme ça !» Vous ferez moins de poids pour la prochaine montée, ben en fait, si je me concentre sur ça en rigolant et en me racontant des conneries, ben en fait, ça passe, quoi. Mais comme je me raconte pas mal de conneries, ça passe bien. Oh, y a ça, il y a chanter sur la route, me faire des blagues avec les panneaux de circulation. Je découvre des facettes de moi assez incroyables, tu vois, des trucs où... Tu te dis, c'est assez inavouable, mais en fait, c'est super drôle. Et je me rends compte qu'il n'y a pas que moi, comme voyageuse à vélo, qui fait ce genre de truc. Donc, je me sens vraiment dans une communauté soudée, tu vois.
Bon, et alors, ce voyage que tu ne voudrais jamais arrêter, vers où te diriges-tu maintenant, après Montpellier? Quelle sera la suite de ton itinéraire?
Eh bien, je vais remonter tout doucement vers le nord-est. Parce que ça me tient à cœur, en fait, de que mon point d'arrivée, ce soit vers la Lorraine, le Grand Est, parce que c'est là que j'ai grandi. Donc, finalement, j'ai envie de découvrir ce territoire à vélo durant ce voyage, avec un autre regard. Donc, j'irai là-bas. Je vais m'arrêter a priori là-bas. Mais ce n'est que temporaire.
Ah, que dit suspense.
Et oui, oui.
Et donc justement, on va pouvoir suivre la suite de ton voyage et puis ce qui se passe après cet arrêt temporaire sur ton blog et ton compte Instagram Le Renard à vélo. Alors maintenant, j'aimerais un petit peu plus parler de toute la documentation que tu mets en place à côté de ce voyage. Tu nous en as un petit peu parlé aussi. Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ton site web et à communiquer autour de ton voyage?
Ce qui m'a poussée à faire ça, tout simplement, c'est que moi, je cherchais plein d'infos et je me rendais compte qu'il y avait des sites, il y avait des gens qui partageaient des choses, mais c'était pas énorme. En tout cas, vraiment centré sur les écolieux, c'était pas énorme. Il y en avait pas forcément beaucoup, pourtant j'entendais plein de personnes qui faisaient ce type de voyage, mais il n'y avait pas forcément de documentation. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est tout simplement parce que je trouvais ça tellement enrichissant. Je me suis dit, je peux pas garder tous ces trucs merveilleux pour moi, quoi. C'est beaucoup trop égoïste, voyons. Je vais partager. C'est trop bien, partager. Ça rend le truc encore plus chouette. Et aussi parce que moi, je me suis beaucoup renseignée comme ça, en allant sur des sites, que ce soit pour les pièces du vélo, que ce soit pour l'organisation du voyage, pour tout, en fait. Et donc, c'était aussi tout simplement rendre l'appareil et pouvoir inciter des gens qui oseraient pas du tout partir en voyage à vélo en leur disant juste tout simplement « Mais allez-y, quoi, les yeux fermés, en fait, parce que j'ai fait ça, en fait. » Bon, ok, pas si fermé que ça, mais j'ai organisé un peu. Mais en fait, y a rien de... Je suis pas magicienne, quoi, y a rien de farfelu. On peut tous voyager en vélo et c'est génial.
Et ton site est juste magnifique, donc c'est un vrai bonheur de se balader sur le renard à vélo.
Merci, merci.
C'est fluide, c'est bien mis en page, il y a plein de beaux récits, c'est vraiment très 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 chouette, donc je conseille vivement. Et tu nous parlais d'une série documentaire, ça consiste à quoi une série documentaire du renard à vélo?
Eh bien la série documentaire, en fait, ce sera, là vous avez sur Instagram la version photographique en fait de la documentation du voyage. La série documentaire, c'est la version filmée. En fait, je fais des interviews filmées dans les lieux dans lesquels je vais. Et donc, il y aura des présentations de chaque lieu, de ses spécificités. Et vous pourrez rencontrer, en fait, tous les acteurs qui gèrent ces lieux-là et vraiment pouvoir mettre des images sur tous ces noms d'écolieux que vous avez sur la carte. Bon, peut-être pas tous, parce qu'il faudrait peut-être une vie pour aller tous les voir, mais en tout cas, une partie.
Oui, on a hâte de découvrir ça. En tout cas, moi, j'ai hâte de découvrir ça. Et alors, j'avais quand même une question que je me pose depuis le début, mais j'ai pas osé te la poser. Pourquoi ton projet s'appelle le renard à vélo? Pour la partie vélo, j'ai compris, mais pour la partie renard, surtout.
Oui, bah à vélo, parce que je suis sur un vélo. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais le renard, en fait, parce que... Mais tout simplement, c'est un animal qui est assez sociable. Sa famille et son cercle, en fait, de connaissances est assez important pour lui. Donc il y avait ce côté collectif que je trouvais assez intéressant, mis en parallèle des écolieux, et aussi tout simplement parce que c'est un animal qui s'adapte à tous les milieux, que ce soit urbain, rural, et parce que c'est un animal, on va dire, qui fouine, quoi, il cherche, il est curieux, il est là quand on s'y attend pas, donc ça c'était un petit peu la petite blague, parce que moi je suis là avec ma caméra, assez discrète, voilà, donc finalement c'est devenu le renard à vélo.
Bon, en tout cas, on a hâte de découvrir ta série documentaire dans quelques mois.
Patience, patience, mais ça viendra.
On est plein de patience et on la relaiera quand elle sera disponible. Bon, on a parlé des préparatifs de ton voyage, des médias que tu mets en place. On peut peut-être parler un peu du futur. Alors, je sais que ton voyage n'est pas fini et que tu m'as aussi dit que tu aimerais voyager à vélo dans des pays... autre que la France, est-ce qu'il y a peut-être une ou deux destinations qui te feraient rêver après ce voyage ou dans quelques années?
Ouh là là, le turfu. je sais que mon vélo, il va pas quitter mes pieds, quoi. Les pédales, elles sont accrochées aux pieds. Je pourrais dormir avec. Enfin, j'exagère presque, mais... Donc, je sais très bien que le voyage à vélo, je ne vais pas le quitter. Mais j'ai aussi un projet de... Peut-être. J'hésite encore, vraiment, hein, parce que j'aime trop mon vélo, mais j'hésite à le mettre un tout petit peu, on va dire, qu'il partage sa place aussi avec un van aménagé, tout simplement parce qu'en fait, j'aimerais faire le documentaire à beaucoup plus grande échelle et pouvoir aller dans le monde, et aussi à aider des lieux qui n'ont pas forcément de capacité d'accueil, donc ça veut dire pas de chambre ou pas d'espace disponible pour pouvoir y vivre, même en hiver, par exemple. Mais en tout cas en vélo, non mais c'est sûr, moi si je peux, là j'adorerais par exemple aller en Suède en vélo, faire des traversées, aller en Mongolie en vélo. Si je m'écoute, je fais le tour du monde en vélo en fait, c'est ça le problème, donc du coup faut que j'organise juste un peu. Parce que, ouais, mais je sais très bien que il y a énormément d'endroits que j'ai envie de visiter. Et le voyage, je suis tombée dans la marmite, c'est mort, quoi. Et je suis tombée dans deux marmites où c'est mort, le voyage et à vélo. Donc, voilà. Donc, si jamais il y a des gens qui sont assez fous pour entendre ce podcast et me proposer des voyages, ben, vous pouvez le faire. J'allais dire surtout ne le faites pas, mais en fait, si, surtout faites-le. Et puis, si ça se trouve, demain, ben, je suis déjà en train de repartir pour mon autre voyage.
Moi, je suis sûre que ton vélo cyclosmique ne sera pas trop jaloux d'être accroché derrière ton van. Ça lui reposera ses roues après un beau tour de France. Bon, et alors, on va conclure ce podcast par la dernière question qui rythme tous les épisodes du podcast. Quels conseils pourrais-tu donner à des personnes qui veulent se lancer dans un premier voyage à vélo? Comme toi, en fait.
Mais lancez-vous, bordel de nouilles. Voilà mon premier conseil.
Bon, c'est rapide et efficace.
pense que c'est le premier et le seul, hein, voilà.
Bon, bah écoute, si c'est le seul, on va dire à tout le monde de se lancer, d'aller à son rythme.
Avec positivisme. Il y aura des épreuves, c'est évident, il y a toujours des épreuves, mais elles sont là, en fait, pour qu'on grandisse. Et donc, si on les voit comme ça et qu'on les accueille, bah en fait, il y a que du positif, quoi. Enfin, je voudrais bien vous dire qu'il y avait des moments terribles, mais que j'en parle pas sur les réseaux, mais en fait, c'est pas vrai. Parce que j'essayais toujours de me dire, bon, ok, il y a une problématique qui se met sur ton chemin, ben, qu'est-ce que t'en fais ? Je veux en faire un truc positif, ok. Et du coup, ben, en fait, c'était plus une problématique, c'était quelque chose qui m'a fait grandir, et donc c'était positif.
Et on le voit à travers ton expérience et ton voyage, comme tu nous racontais tout à l'heure, que même dans les moments un peu plus difficiles, entre guillemets, tu voyais toujours le positif. Et non, des très bons conseils.
Je fais ce que je peux.
C'est le moment de conclure cet épisode. Je voulais te remercier, Juliette, pour ton beau témoignage sur ton voyage à travers la France et la découverte de tous ces écolieux. Tu nous as permis d'aller un petit peu plus loin que le voyage à vélo. Et puis, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une belle continuation sur les routes de France. Merci à toi.
Merci beaucoup, Claire, du fond du cœur.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en nous laissant une note et un petit mot sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Je vous le garantis, ça me fera chaud au cœur. Je voulais aussi vous adresser un grand merci pour tous vos nombreux messages que je reçois sur les réseaux sociaux ou par mail. Vos petits mots me mettent toujours le sourire jusqu'aux oreilles. Pour poursuivre l'aventure, nous vous donnons aussi rendez-vous sur notre site cyclotopo.fr. Vous pourrez y retrouver les récits de nos voyages et aussi des astuces pour choisir votre équipement pour le voyage à vélo. Si vous avez des questions sur les panneaux solaires, le matériel de réparation ou encore quel popote choisir pour un premier voyage à vélo, sur Cyclotopo, vous trouverez toutes ces infos. Et un dernier petit mot, si vous voyagez vous aussi à vélo et que vous souhaitez participer à ce podcast, c'est aussi sur cyclotopo.fr que vous trouverez le formulaire de contact. Bon, quant à nous, on se retrouve mardi dans 2 semaines pour de nouvelles aventures à vélo. Ciao !